Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Faso IAFA, le magazine humanitaire de Studio IAFA. Aujourd'hui, dans ce magazine entièrement consacré aux femmes et à leur rôle dans la gouvernance, nous mettons en lumière celles qui transforment leur communauté et inspirent le changement. Au Burkina Faso, des femmes extraordinaires agissent chaque jour pour améliorer la vie de leur entourage. Pierrette Nien, présidente de l'association CENIMI, œuvre pour la scolarisation et le bien-être des enfants malvoyants à Houndé. Comment son engagement redonne-t-il espoir à des familles entières? Découvrons-le dans notre reportage de la semaine. Puis, zoom sur Anne Lamien, entrepreneur passionnée par la transformation des produits forestiers non ligneux qui, depuis plus de 20 ans, partage son savoir avec d'autres femmes pour bâtir une société plus équitable. Par la suite, focus sur l'une des activités génératrices de revenus portées par de nombreuses femmes, la saponification. Quels sont les risques sanitaires et comment les prévenir? Le docteur Karim Kombasri, spécialiste en santé publique internationale, sera notre invité. Voici entre autres les sujets que nous allons suivre tout au long de ce magazine. Je suis Aimé Roland Ouedraogo, ravi de vous retrouver une fois de plus. Il n'y a pas de véritable développement sans la participation des femmes, disait le capitaine Thomas Sankara. Une affirmation forte que l'histoire et l'actualité confirment chaque jour. Au Burkina Faso, de nombreuses femmes s'engagent chaque jour dans divers domaines pour améliorer la vie de leur communauté. Elles éduquent, soutiennent, sensibilisent et inspirent le changement. Pierrette Nien est l'une d'entre elles. À travers l'association CENIMI des aveugles et malvoyants du Tuy, dont elle est la présidente, elle œuvre pour la scolarisation et le bien-être des enfants malvoyants dans la ville de Houndé et ses environs. Un engagement citoyen qui a permis de redonner espoir à de nombreuses familles. Le reportage est signé Nelly Tapsoba.
Quand même je suis tombée dans la société, j'étais vraiment découragée. Mais quand UNABPAM nous a approchés, je suis allée trouver qu'il y a des gens qui sont comme moi. Ça m'a encore donné le courage vraiment de m'engager pour ces enfants.
C'est en 2016 que la vie de Pierrette Yen bascule. Frappée par la cécité, elle se laisse dans un premier temps gagner par le découragement. Mais rapidement, elle décide de faire de son handicap une force. Avec l'appui de l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants UNABPAM, elle fonde l'association CENIMI des aveugles et malvoyants du Tuy.
Dans les différents villages de l'environnement de Houndé, je fais les sensibilisations et dans la province des Balé, avec mon guide, nous faisons la sensibilisation en moto. Quand on rencontre un enfant qui est en situation d'handicapé visuel, on essaie de sensibiliser les parents et amener l'enfant à l'inscrire à l'école. Parce que ces enfants, les parents les cachent beaucoup. Il y en a même, ils ont honte de quand on dit qu'il a un enfant aveugle.
L'engagement de Pierrette Yen va au-delà de la sensibilisation. Avec l'association, elle a réussi à mettre en place une école disposant de deux classes transitoires. Les enfants sont également placés dans des foyers d'accueil lorsque cela est nécessaire.
Quand nous amenons les enfants, on les met d'abord en classe d'observation pour les amener à apprendre à lire et à écrire. On les apprend la sensibilité des doigts et en même temps, on commence à les apprendre les lettres alphabet braille. Après la classe de CO, ils sont au CP1. Après le CP1, ils maîtrisent le système, ils arrivent à écrire et lire. On les inclut avec les voyants.
Ce combat, Pierrette Yen ne le mène pas seule. Elle peut compter sur le soutien de son époux qui l'accompagne souvent lors de ses déplacements et partage sa conviction. Il se dit fier de ce qu'elle arrive à accomplir.
Souvent, les sorties pour tenter de repérer certains enfants sur le terrain, bon, on les fait ensemble. Les difficultés, en tout cas, ça ne manque pas. Les gens sont encore très réticents par rapport à la scolarisation de ses enfants. Je ne peux qu'être satisfait du travail qu'elle a là-bas. Tu as son handicap aussi. Ce n'est pas facile, mais elle réussit tant bien que mal.
Fatoumata Soro est mère d'un enfant vivant avec un handicap visuel. Pour elle, l'accompagnement de Madame Yen ne se limite pas aux enfants. Son action a un véritable impact sur les familles.
Vraiment, elle nous soutient, les encouragements. Elle soutient l'enfant même sur le plan éducatif, sur le plan même social, les encouragements aux membres de l'association. Ils font du bien pour les enfants et pour les parents. Parce qu'il y a des parents qui avaient déjà perdu le sourire. face à l'handicap de leur enfant. Vraiment, ils essuient les larmes des parents.
Aujourd'hui, ce sont 21 enfants vivant avec un handicap visuel qui bénéficient de l'accompagnement de l'association. 14 d'entre eux sont placés en famille d'accueil. De par sa détermination, Pierrette Hien a su transformer sa propre épreuve en une force et impacte aujourd'hui toute une communauté. Elle espère ainsi contribuer à créer une société plus inclusive et solidaire.
Momo et Nafou.
À l'image de Pierrette, de nombreuses femmes sont diversement engagées pour le bien-être de leur communauté, malgré les préjugés. Cette semaine, Nafou explique à Momo que les femmes peuvent par exemple s'engager pour le bien-être des personnes malvoyantes. Elle ajoute que l'inclusion de ces personnes commence par le changement de notre regard vis-à-vis d'elles. On les écoute.
Bonjour Momo.
Bonjour Nafou, ça tombe bien, je te cherchais même.
Ah bon?
Tu as entendu cette dame-là? Elle dit être engagée pour la cause des personnes vivant avec un handicap visuel.
Et y a-t-il un problème à cela, Momo?
Mais bien sûr, Nafou. Toi, tu es femme. Au lieu de rester tranquille, non. En plus, tu veux t'engager dans un sujet de personnes vivant avec un handicap visuel. Mais franchement, ce n'est pas la priorité. Déjà qu'on a du mal à gérer ceux qui voient bien. Alors eux, c'est perdu d'avance.
Et Momo? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Perdu d'avance, ouah. Donc pour toi, le handicap visuel, c'est une fatalité, quoi?
Bien sûr.
Être une femme oblige à ne pas contribuer au bien de la population?
Voilà. Quand quelqu'un est aveugle, on dit Dieu l'a puni, c'est pas moi qui l'ai dit. On les cache ou on les garde à la maison. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire dehors même? C'est lourd à porter pour une femme.
Momo, tu me déçois.
Oui.
C'est exactement ça le problème, les préjugés. La femme ne doit pas laisser les hommes seulement décider. Si elle s'engage, c'est qu'elle peut y arriver, Momo. Maintenant, pour ce qui est des personnes vivant avec un handicap visuel, tu l'as dit, on les cache, on les isole et après, on dit qu'elles ne contribuent pas dans la société. Mais Momo, laisse-moi te dire que de nombreuses personnes vivant avec un handicap visuel aimeraient aller à l'école, sauf qu'il n'y a pas assez de livres en braille, pas d'enseignants formés, ni même de rames pour entrer dans les classes, Momo.
Hein?
Oui.
Donc, tu veux dire que ce n'est pas elle-même qui refuse d'aller à l'école?
Refuser, ouah. Hein? Tu rigoles quoi, Momo? Certaines rêvent de lire et d'écrire comme toi et moi.
Hein?
Mais imagine, toi tu as un cahier, elles n'ont rien d'adapté. Toi, tu as un maître. Elles ont un maître qui ne sait même pas comment leur expliquer. Tu crois qu'elles peuvent avancer comme ça?
Bon, d'accord. Mais quand même, même si elles vont à l'école, après, qui va leur donner du travail?
C'est vrai que beaucoup n'ont pas d'emploi. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas capables. C'est parce que les employeurs ont peur. Ou pensent qu'elles ne seront pas productives pourtant. Pourtant, Momo, avec des outils adaptés, ordinateur parlant, téléphone braille, machine spéciale, elles peuvent être très performantes. Mais ces outils sont rares et chers.
Ah bon, donc, elles peuvent utiliser un ordinateur. Tu veux me faire croire que ces personnes-là tapent sans voir l'écran. Aïe!
Momo, toi tu as les yeux pour voir aussi, mais tu tapes souvent sur l'ordinateur sans réfléchir. Sérieusement, oui, ça existe, Momo.
Oui. Alors, c'est donc la société qui les empêche d'avancer.
Exactement, Momo. Il faut s'engager comme cette bonne dame dont tu te plains. Si tout le monde prenait ça au sérieux, Momo, enseignants, employeurs, familles, autorités, on verrait des personnes vivant avec un handicap visuel à l'école, au bureau, à la télé, partout, je veux dire.
Nafou.
Oui.
Tu viens une fois de plus d'ouvrir mes yeux. Moi, je croyais que ces personnes vivantes avec un handicap visuel étaient condamnées à rester cachées. Mais si c'est juste une question d'outils, de formation et d'acceptation, alors on peut tous aider.
Bravo, Momo. Voilà, tu as compris. Et aider, ce n'est pas forcément donner des millions. C'est peut-être parler sans moquerie. encourager une famille à scolariser son enfant. Et ce n'est pas un engagement citoyen réservé aux hommes seulement, Momo.
Tu as raison. L'engagement citoyen au profit des personnes vulnérables, comme ceux vivant avec un handicap visuel, est aussi une affaire de femmes.
Voilà.
Nafou a fini par convaincre son ami Momo que chacun, à son niveau, peut contribuer à briser les barrières et à construire une société plus juste, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les personnes malvoyantes. La connaissance est la seule richesse qui se multiplie quand elle est partagée, disait Socrate, une citation que Anne Lamien incarne pleinement. Entrepreneur passionnée pour la transformation des produits forestiers non lieux, elle partage depuis plus de 20 ans son savoir-faire avec d'autres femmes, convaincue que l'autonomie financière est la clé de leur épanouissement. Par son engagement, elle ouvre la voie à une société fondée sur l'entraide et le partage. Awa Moniratou, Tankwano.
Oundé, au secteur 4, rencontre avec Anne Lamier, une femme de plus de 50 ans. Dans son petit atelier à la maison de la femme, une odeur subtile de karité flotte dans l'air. On peut apercevoir de grandes bassines, des seaux en plastique et beaucoup d'autres ustensiles qui concourent à la fabrication du savon. Anne et son assistante nettoient des moules en fer. Au milieu se tient Dame Lamier, calme, sûre d'elle. Elle porte une blouse blanche, un chapeau et des gants de protection. Elle dépose tous les produits qu'elle va utiliser pour sa production du jour. Un savon de toilette à base de moringa et de karité.
Mais en ajoutant ça, je ne vais pas ajouter ça ici, je vais mettre de l'eau.
Nous sommes les apprenantes du jour. Anne, le regard maternel, nous explique d'un ton calme et rassurant le processus de fabrication de ce savon qu'elle fait depuis 2004. Anne mélange avec un geste précis les ingrédients nécessaires à la saponification. Ses mains expertes brassent la pâte onctueuse. Ici, pas de place à l'improvisation. Chaque savon qui prendra forme est le fruit d'un savoir-faire patiemment acquis et perfectionné.
C'est mon mari même qui avait commencé à faire ça un peu pour qu'on se douche à la maison, mais c'était pas bien fait. Entre-temps, moi, je lui ai dit, c'est mieux de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien. Et là, il y avait une maîtresse à Bobo. La maîtresse est venue faire 2 jours avec nous et on a produit les savons de lessive. Et quand on faisait ça, on n'avait pas de matériel. C'est les cartons qui nous servaient de moule et on découpait à l'aide d'un couteau et une règle.
Très vite, Anne se donne une mission, celle de former et d'aider d'autres femmes. Sous le leadership de l'association Wamisa qu'elle fonde en 2012, elle forme des centaines de femmes. Sa motivation, une conviction profonde, celle qu'une femme, avec peu de savoir et de persévérance, peut bâtir son autonomie.
Je menais mes activités. Après, j'ai trouvé que c'était bon de faire ça en coopérative et j'ai formé les femmes. Tout ce que je connais, j'ai donné à ces femmes-là pour qu'on puisse vraiment sortir de la pauvreté. Et même présentement, je dispense des formations et même souvent quand les femmes n'ont pas les moyens, je donne les formations gratuitement. Je donne souvent même le reste du matériel de transformation à certaines sociétés coopératives pour qu'elles aussi puissent travailler.
Dame Lamien, c'est ce qu'elle construit autour d'elle. Très vite, elle milite au sein de l'Association des femmes engagées dans la consolidation de la cohésion sociale de la province du Tuy, dont elle est la présidente. Ses séances de formation deviennent un cadre de sensibilisation et d'éveil des consciences sur le genre, l'entrepreneuriat, la cohésion sociale, le cancer du sein.
On a besoin de la paix dans notre pays. Pour qu'il y ait la paix, il faut que nous, femmes aussi, que nous nous levons, que nous nous battons. Faire la formation, on donne les sensibilisations et souvent même on s'est fait aider par en tout cas les groupes théâtrales à sensibiliser, non seulement dans la commune de Oundé et en dehors de la commune de Oundé aussi.
À son actif, des centaines de femmes ont été formées à la production et à la transformation du beurre de karité en savon de toilette, lessive, bon pour le corps et les cheveux. Honorine Guiré et Marianne Barry ont été ses élèves. Aujourd'hui, chacune a sa propre entreprise de transformation.
Quand elle nous a formés, elle m'a vraiment encouragée. On arrive à produire, on participe au niveau des différentes foires. On peut dire qu'on s'en sort. Surtout le beurre de karité. Si on transforme ça, il y a des gens qui vivent même en gros dans les vins. Elle est vraiment très, très engagée. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réussies lors de la formation. Mais on peut aller la toucher. Elle va nous montrer.
Elle nous a formée, on était au nombre de 25 femmes. Bon, elle a pris symboliquement un peu d'argent avec nous, mais c'est pas beaucoup quoi. On l'a donné pour la soutenir avec. On vend le savon là. Souvent le savon là même, ça sort hors du pays même.
En transmettant son savoir-faire, Anne Lamien ne transforme pas uniquement des amandes de carité. Elle modèle un avenir différent pour de nombreuses femmes. Un futur où chacune d'elles peut rêver d'autonomie et d'épanouissement. Pour elle, le partage du savoir est une richesse inépuisable. Et cette richesse, elle la sème jour après jour au cœur de sa communauté.
La fille qui barre.
Elles sont nombreuses, ces femmes dont l'activité principale est la saponification. Le docteur Karim Kambasri, médecin spécialiste en santé publique internationale, nous explique les risques sanitaires auxquels elles sont exposées et comment elles peuvent se protéger tout en continuant leur activité économique. Il répond aux questions de Awa Moniratu Tankwano.
Bonjour docteur Kambasri.
Bonjour madame.
Dites-nous, quels sont les principaux risques sanitaires auxquels les femmes sont exposées dans la saponification?
Il faut dire que la saponification, c'est un métier noble au Burkina Faso. Ça permet de nourrir pas mal de familles. Mais il faut savoir qu'il y a des risques. Les risques sanitaires, c'est beaucoup les produits chimiques liés à la soude qu'on utilise. Et vous avez des irritations cutanées, vous avez des inhalations de la vapeur caustique, qui est beaucoup plus toxique, qui va se retrouver au niveau des poumons. Et puis, bon, vous avez la possibilité d'avoir des projections, des accidents domestiques et puis des troubles musculaires.
Justement, en parlant de brûlures et d'atteintes cutanées, quels sont les types de brûlures que vous rencontrez le plus souvent?
Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les brûlures alcalines, qui sont beaucoup plus localisées au niveau des mains, au niveau du bras et au niveau du visage. Vous avez ce qu'on appelle les dermatites de contact, qui sont des inflammations de la peau liées à la brûlure toujours de soude caustique. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir des ulcérations cutanées. Voilà. Et puis, peut-être une sensibilisation allergique pour l'avenir.
Ok. Vous avez aussi parlé de l'inhalation des vapeurs de soude. Est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur les poumons à long terme?
Bien sûr, parce que cette vapeur de soude là peut entraîner une irritation des voies respiratoires et une toux chronique. Ça peut entraîner des bronchites, une bronchite chimique, parce que la soude, c'est chimique. Vous avez des risques d'asthme professionnel, par exemple. Et puis, à long terme, vous avez la possibilité d'avoir une altération de la fonction pulmonaire.
Mais docteur, quelles sont les mesures de prévention prioritaires que ces femmes-là devraient adopter?
Prioritairement, je pense qu'il faut porter des gants qui sont résistants aux produits chimiques, porter des lunettes de protection, un tablier qui est épais pour éviter que la soude là puisse se projeter sur le corps. Et si c'est possible d'utiliser des masques ou bien de faire du travail en plein air, voilà, ça peut limiter l'inhalation parce que quand vous êtes dans un espace très fermé, donc la soude ne sort pas et donc vous avez la possibilité et le risque de vraiment inhaler une grande quantité. Il est aussi préférable de bénéficier d'une formation préalable pour éviter les risques et puis, si c'est possible, d'avoir une trousse de premiers secours.
Mais en cas d'accident, que faire? Par exemple, projection de soude dans les yeux, sur la peau, injection accidentelle.
J'ai dit d'avoir déjà une trousse de premiers secours, mais quand vous avez une projection au niveau des yeux, il faut rincer immédiatement l'eau et pendant 15 à 20 minutes, il ne faut pas frotter le produit chimique au niveau des yeux et immédiatement aller consulter un médecin en urgence. Ça, c'est important. Et quand c'est avec la peau, il faut surtout retirer les habits, les vêtements contaminés et il faut rincer abondamment à l'eau et ne pas utiliser du vinaigre parce qu'il peut y avoir une réaction croisée. En cas d'ingestion accidentelle de soude au niveau de l'appareil digestif, il ne faut pas essayer de vomir parce que vous créez encore une irritation. Il ne faut pas donner à boire à la personne parce qu'il y a des gens qui disent « donne du lait » et tout ça. C'est dangereux, il ne faut pas le faire. Il faut transporter la personne rapidement à l'hôpital. On a des mesures pour pouvoir gérer cette situation. En milieu hospitalier.
Docteur, comment peut-on sensibiliser les femmes à protéger leur santé tout en poursuivant leur activité économique et la saponification?
Il faut développer des mesures de sensibilisation pour le changement de comportement. C'est très capital pour ces femmes-là. Et si c'est possible d'avoir des visuels affichés dans chaque lieu de travail, ça va permettre d'avoir un réflexe en cas de risque, en cas d'exposition. Et vous avez aussi la possibilité de faire parler les femmes ou les personnes qui ont été victimes d'accidents. Ça va permettre de prendre conscience que ce qu'on dit n'est pas du blabla, que c'est réel. Il y a des gens qui ont déjà intégré cela. Et puis, intégrer cette formation de volet sanitaire dans la formation professionnelle de ces femmes-là. parce que ça les permet en même temps de valoriser leur métier, mais en même temps de prendre conscience qu'il y a un risque lié à la manipulation de ce produit chimique-là. Voilà. Et si c'est possible, dans un milieu communautaire, vous pouvez, avec les associations et autres, créer des groupements de veille. Là, les gens veilleront à ce que, en cas de risque ou bien en cas de contamination ou d'exposition, qu'on puisse gérer la situation de façon plus rapide.
Docteur Kombasere, je vous remercie.
Merci à vous.
Kibar utile.
Après avoir exploré les risques liés à la saponification, il est important de s'intéresser aussi à la protection et au bien-être des plus vulnérables. Parmi eux, les enfants avec un handicap visuel qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Comment enseignants, élèves et parents d'élèves peuvent-ils concrètement favoriser leur apprentissage et leur épanouissement? Quelles bonnes pratiques adopter? Marcelin Dakio, maître de suivi des handicaps visuels de la province d'Ituri, répond aux questions de Nelly Tapsova.
Bonjour Monsieur Dakio, vous qui êtes un cadre d'enfants vivant avec un handicap visuel, quels sont les gestes simples qu'un enseignant peut poser pour aider ces enfants-là à suivre les cours?
C'est d'abord l'accueil. L'accueil de l'enfant handicapé visuel est très capital. L'handicap fait déjà que nos enfants souvent sont stressés. Mais si l'enfant, tu le mets en confiance en l'accueillant, en disant à l'enfant qu'il est sur lui, voilà, il peut compter sur toi. L'enfant va beaucoup s'investir et il va se décomplexer et puis vraiment travailler. Il va même t'épater. Voilà, parce que ce sont des enfants qui sont souvent vraiment intelligents. Mais on les néglige souvent. On dit que comme ils sont handicapés, bon, on les minimise. Ça fait que les enfants se renferment souvent sur eux-mêmes et ne veulent plus travailler. Et après ça, l'enfant aussi, il a besoin que tu les touches. C'est-à-dire, lui, il manipule. Comme il ne voit pas, voilà. Et en tout cas, il l'écoute. Mais ce qu'il veut faire souvent, il a besoin d'être assisté. Voilà, donc tu peux l'assister, le guider pour qu'il puisse sortir son matériel, le disposer et puis être prêt pour démarrer les cours.
Est-ce qu'il y a des outils nécessaires pour les aider dans leur cursus scolaire?
Les outils, en tout cas ça c'est très important. Sans les outils, il ne peut pas travailler. D'abord pour l'enfant handicapé visuel, on a le matériel de travail qu'on appelle le matériel braille, puisque l'écriture là se fait en braille. Donc le matériel braille, on a d'abord voilà, la tablette braille. Dans la tablette, on poinçonne avec un poinçon. Et il y a le cubarite et c'est les cubes qu'on prend pour loger dans le cubarite. Donc il y a le cubarite et les cubes, voilà, et les feuilles braille, la feuille qu'on insère dans la tablette. Il y a d'autres matériels qu'on utilise en classe, tels que les alvéoles, voilà, on utilise ça au CO, et les bacs à calcul, et bon, l'ardoise à point mobile, voilà, tout ça là. Et pour tracer les figures géométriques aussi, on a d'autres matériels qu'on utilise.
Est-ce que ce matériel est accessible ici au Burkina?
Le matériel est accessible à travers nos structures UNABPAM qui est en partenariat avec beaucoup de partenaires qui sont à l'extérieur et dans le plan sous-régional. Donc c'est avec eux, nous, on gagne le matériel. Chaque début d'année, on exprime les besoins et nous fait venir le matériel. Voilà, c'est un matériel qui est très coûteux.
Quel rôle les autres élèves et les parents peuvent jouer pour soutenir la scolarisation d'un enfant vivant avec un handicap visuel?
Les enfants en classe vivent ensemble. Voilà, et les apprenants sont en paire. Et l'enfant handicapé a besoin d'un tuteur. Voilà, ça veut dire dans la classe, le maître peut identifier des élèves qui sont un peu brillants, qui peuvent l'assister. Comme il ne voit pas, donc son tuteur est chargé de lire. Voilà, il est chargé de lire ce que le maître a écrit au tableau. De voix basse pour le dire. Et il le dicte et lui aussi, il profite, il l'écrit. Bon, les autres élèves aussi l'assistent. En tout cas, c'est une aide vraiment sociale nécessaire. Mais à la maison, l'enfant a besoin d'être vraiment guidé. Il peut venir déposer son matériel et après il ne sait pas où c'est. Voilà, donc on le guide et pour qu'il puisse retrouver facilement son matériel. Les ranger très bien et les entretenir. Et il faut le rappeler comme tous les autres enfants. Ah, il est l'heure de bosser, il faut prendre ton matériel et puis étudier. Voilà, ils ont besoin aussi d'être assistés de ce côté-là. Et sur le plan hygiénique aussi, il doit pouvoir faire ses besoins, voilà, laver ses vêtements, voilà, les week-ends, les heures hors classe pour pouvoir se préparer pour la reprise, voilà, des cours. Donc les parents doivent jouer ce rôle permanemment. Si c'est joué, bon, lui-même il va se sentir en confiance, il va se sentir aidé et il va aussi se donner.
Pour finir, quel conseil donneriez-vous aux enseignants et enseignantes qui reçoivent pour la première fois un élève vivant avec un handicap visuel dans leur classe?
Bon, le tout premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. Voilà, parce que quand c'est un handicapé, d'autres ont déjà peur, pas avoir peur et de l'accueillir comme tout autre enfant. Voilà, sur le plan social là, c'est des enfants qui doivent être acceptés pour leur intégration sociale et leur autonomie. Parce qu'il est intégré socialement, vous vous l'avez entouré d'un environnement de confiance qu'il fait partie de votre société. Lui aussi, il va se donner, il va attraper, c'est-à-dire amener sa brique de construction à votre société. Mais si vous le rejetez, il va se raffermer sur lui-même et il va devenir une charge sociale. Et sensibiliser les élèves surtout à l'accepter. Il est comme nous. Maintenant, sur le plan pédagogique, là-bas, les enseignants doivent vraiment veiller à l'application des méthodes techniques psychopédagogiques nécessaires pour pouvoir que l'enfant puisse apprendre. Parce que si tu n'utilises pas les méthodes adaptées, l'enfant ne va jamais pouvoir se donner. Il va chaque fois passer à côté. Donc il faut allier techniques et méthodes qui sont vraiment adaptées à sa situation. L'enfant ne doit pas manquer du matériel. Le sport surtout qu'il a besoin pour travailler. Il faut que l'enseignant veille à ce que ce soit toujours bien disposé et qu'il est prêt pour assimiler. Et chaque fois quand il apprend ou bien il est en train d'écrire, il faut passer voir réellement est-ce qu'il suit. Une fois que vous assurez tout ça, là, vous allez voir que l'enfant va donner comme les autres.
Bienvenue dans votre rendez-vous musical Musique Live. Ce soir, nous recevons une artiste qui allie modernité et tradition. Asdi Diarra, passionnée de musique et porteuse de messages universels. Avec elle, nous parlerons de son parcours, de ses chansons engagées et de la place des femmes dans la société. Bonsoir et bienvenue, Asdi.
Oui, bonsoir.
Comment vous allez?
Je vais très bien, chez vous.
Vous avez commencé dans le mouvement hip-hop avant de vous tourner vers l'afro-mandingue. Qu'est-ce qui a motivé cette transition dans votre parcours artistique?
Au début, 2008-2009, c'était un groupe et le groupe s'appelait les Golden Girls. Voilà, donc on a commencé ensemble, on a eu à faire deux morceaux, mais l'ami en question, son papa ne voulait pas qu'elle fasse la musique. Donc j'ai dû continuer seule. Voilà pourquoi j'ai changé de style, parce que c'est elle qui faisait le rap, moi je faisais pas le rap, moi je prenais les refrains. Donc je me suis lancée, j'ai pris la voix toute seule, en solo. En 2016, un album de 7 titres intitulé Massa Douaou, qui signifie la bénédiction des parents.
Justement, parlant de bénédiction des parents, votre ami n'a pas eu cette bénédiction. Vous avez travaillé comment pour avoir la bénédiction de vos parents?
Bon, ça n'a pas été facile vraiment, parce qu'au début, mon papa aussi n'était pas trop pour la musique. C'est la maman qui m'encourageait beaucoup. Donc, j'ai demandé à Dja Vérité.
Okay.
Quand il est venu faire un concert, je suis allée pleurer dans ses bras. J'ai dit, moi, je veux faire la musique, mais mon papa ne veut pas me donner la permission parce que je n'étais pas à Bobo ici. Je suis de Niangoloko. Mes parents sont à Niangoloko. Mais Dja Vérité est venu le causer. Il a bien expliqué. Mon papa a bien compris. Il m'a donné la bénédiction. Il m'a encouragé. Il m'a ouvert la porte. Il dit que je peux me lancer. Donc, c'est grâce à ces bénédictions, j'ai pu faire le premier album en 2016.
Vos chansons abordent des thèmes forts comme l'amour, la paix, le pardon et surtout la valorisation de la femme. D'où vient cette inspiration?
Bon, dans toute chose, il faut l'amour. Mm-hmm. Parce que moi-même, j'ai aimé la musique avant de me lancer dedans. Voilà, depuis toute petite, je participais à tout. Même s'il y a des mariages dans le quartier, je connais la mariée, je ne connais pas où je pars. Juste pour aller voir comment les gens chantaient parce que j'aimais trop la musique.
En tant que femme artiste, pensez-vous que la musique peut contribuer à renforcer la place des femmes dans la gouvernance et la prise des décisions dans notre société?
Oui, oui. Dans toute chose, il faut respecter la femme parce que les mamans sont une bénédiction de Dieu. Donc, il faut les respecter. Dieu ne fait rien sans la bénédiction de ma maman. Ce que les femmes aussi disent là, il faut les écouter parce qu'elles ont souffert. Prenez ça en compte parce qu'elles ont une grande place dans la vie.
Asdi, les auditeurs et auditrices sont actuellement à l'écoute et ils s'impatientent de vous écouter. À présent, nous allons vous accorder un temps pour la prestation en live. Félicitations à l'instant performance live de Asdi Diarra. Dites-nous, Asdi, cette chanson est chantée dans quelle langue?
La chanson a été chantée en langue turque, puisque moi-même je suis turque. C'est intitulé Didial Foyigagu, qui signifie tout simplement mariage. En djoula, on dit Moussoka Gbasso.
D'accord, nous tirons tout doucement vers la fin de notre causerie. Actuellement, beaucoup sont celles qui désirent occuper des postes de responsabilité, soit devenir mairesse, avocate, artiste, chanteuse. Quels sont vos conseils à leur égard?
Je vais leur dire de se battre, d'avoir le courage. Parce que dans toute chose, il faut le courage. Avoir aussi la volonté même de la chose. Donc, bosser dur, parce que rien ne marche sans le travail. Si tu veux devenir ministre, il faut bosser, il faut travailler. Si tu veux devenir avocate, il faut travailler. Seul le travail paye.
Merci beaucoup pour ce message, pour aussi ces témoignages inspirants et votre engagement à travers la musique. Merci d'être passé à Asdi Diarra.
Merci au studio Yafa pour l'invitation. Ça me va droit au cœur. Merci, merci à vous.
Et c'est sur cette note musicale que se referme votre magazine. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Studio Yafa au www.studioyafa.org. Yafa, chez vous, la paix chez vous.